Kona Podcast sur la route, édition 2022, avec votre animateur Alain Jou. Partons à la découverte des régions du Québec, propulsées par les croisières MVP. Mesdames, messieurs, bonjour, Koué. Écoutez, en cette tournée estivale, dans le cadre de Coconut Podcast sur la route, nous nous retrouvons dans la magnifique région de Laval, messieurs, dames. Alors, nous nous payons la traite, comme on dit, on reçoit le premier magistrat de Laval. Écoutez, il est un fils de l'île Jésus. Il fait partie de cette nouvelle génération de politiciennes et politiciens dans la trempe de Madame Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, entre autres Monsieur Dufour à Repentigny. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes avec, oui, celui qui gère la troisième ville en importance au Québec, messieurs, dames. Nous l'avons connu comme conseiller municipal dans Duvernay-Pont-Viault. Par la suite, il a gravi les échelons pour devenir le bras droit du grand maire, M. Marc Demers, en devenant même maire suppléant. Et aujourd'hui, à Coconut Podcast, nous recevons, oui, messieurs, dames, je le redis, le premier magistrat de Laval, je dis bien Stéphane Boyer, messieurs, dames. Monsieur le maire, Stéphane Boyer, comment ça va?
Très bien, écoute, c'est rendu l'été, il fait beau, on est en bonne compagnie, ouais. Donc ça pourrait pas aller mieux.
Excellent. Écoutez, le fait de vous recevoir à Coconut Podcast, ça fait un petit moment que Coconut suit votre évolution. Et vraiment, aujourd'hui, sachez que nous sommes ravis de vous recevoir et on a amené toute notre armada, équipe technique, pour Monsieur le maire, Stéphane Boyer.
Oui, ben c'est mon plaisir.
Excellent. Écoutez, d'entrée de jeu, on est en pleine pandémie. On pensait être en sortie de pandémie. On vient de vivre deux années fort rocambolesques. Vous-même, votre vie a diamétralement changé du jour au lendemain, en quelque sorte. Vous étiez quand même maire suppléant. Vous êtes devenu maire. Comment se sont orchestrés très rapidement, Stéphane, les deux dernières années sur le plan personnel et également professionnel, parce qu'on sait que vous aimez profiter de la nature. Comment que ça s'est orchestré pour pouvoir ventiler? On vous écoute?
Oui, bien, en effet, hein, les dernières années ont été spéciales pour tout le monde, ouais. Moi inclus. Donc, c'est sûr qu'avec la pandémie, ça a amené plein de remises en question pour tout le monde. Mm-hmm. Moi, le premier, à savoir est-ce que je continue la politique, est-ce que je fais autre chose de ma carrière, est-ce que je passe à autre chose dans ma vie. Mais avec le départ de M. Demers, j'ai décidé de faire le grand saut, comme on dit, de me lancer à la mairie à Laval. Et je suis bien heureux, là, évidemment, de ce choix-là. Et c'est spécial, hein, parce que pour les élus, normalement, on a le rôle de gouverner la ville. Donc, comme tout le monde, on fait un peu du 9 à 5, du lundi au vendredi. On est dans les bureaux, on étudie nos dossiers, on fait des réunions. Mais le soir, les week-ends, normalement, un élu, ben, on est là pour représenter la ville, puis on est là pour rencontrer nos citoyens. Fait que normalement, on va dans des soupers spaghettis, des galas, des événements sportifs. On est sous le terrain, on va rencontrer les gens, nos citoyens. Mais avec la pandémie, tout ça s'est arrêté du jour au lendemain. Fait que c'était quand même spécial, tu sais, d'être élu sans avoir vraiment le contact avec la population pendant presque deux ans. C'est particulier pour tout le monde.
Sachant que vous êtes un gars du peuple, vous aimez votre monde depuis 2014-2013, lorsque vous avez accédé au conseil municipal, on vous voyait sillonner les rues sur le boulevard Lévesque, là, on vous croisait par moments. Donc, ça a dû être difficile pour vous quand même de ne pas pouvoir être au contact de vos commettantes et commettants.
Ben absolument, c'est sûr que on aime ça. T'sais, quand tu te lances en politique, veux pas, t'es un peu une bébite sociale. T'aimes ben, ça le monde.
C'est vrai.
Donc c'est certain que oui, je pense que c'est difficile. D'un côté, je mentirai pas, ça, pour plusieurs élus, ça a permis aussi de prendre un peu de repos, parce que c'est souvent du 7 jours sur 7 quand tu es élu, ça n'arrête jamais. Donc pour plusieurs, ça a été une petite pause bien méritée. Mais tout ça s'est poursuivi même avec la campagne électorale où Pour moi, c'est très spécial de devenir maire parce que dès le lendemain des élections, on a tombé dans la vague Omicron, le reconfinement qui démarre. Et j'ai passé les 4 premiers mois comme maire sans faire aucun événement public parce qu'il n'y en avait plus, tout était arrêté. Fait que ça aussi, c'est particulier. Puis c'est juste récemment là, que les événements reprennent et que je découvre le volet de qu'est-ce qu'être un maire lors d'événements publics.
Lors d'événements publics. C'est vrai que durant les 2 années, on n'a pas pu nécessairement, vous en tant qu'élu, aller à la rencontre des citoyens, mais on va en parler un peu plus loin dans l'entrevue. Vous vous reprenez de belle façon, vous organisez là avec d'autres mairesses, maires de grandes villes du Québec, ce sommet portant sur le logement. Toute une façon de reconnecter avec ses citoyennes, ses citoyens. On a les Jeux du Québec à Laval. Ça également, c'est une autre façon de reconnecter. On va en parler dans quelques instants. Donc, on vous sent d'attaque quand même, malgré que les 2 dernières années ont été plus ou moins difficiles. Mais écoutez, vous avez le vent dans les voiles, ouais. Monsieur le maire.
Moi, j'ai envie de dire, suite à la pandémie, c'est le printemps. Puis avec le printemps, la vie reprend, les activités reprennent, puis moi, je suis juste heureux de ça.
Après la pluie, le beau temps. Ouais. Excellent. Écoutez, là, on va apprendre à vous connaître, monsieur le maire. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, là, je dois leur dire, c'est peut-être parce qu'ils n'ouvrent pas leur petit écran, parce que ces dernières années, on vous a quand même vu pas mal souvent dans les grands médias nationaux, car vous portez des causes par moments qui touchent la grande région métropolitaine de Montréal, lorsque vous étiez maire suppléant, au niveau de l'environnement, ne serait-ce, vous étiez très présent sur ces dossiers, alors... on va apprendre à vous connaître pour ceux qui ne vous connaissent pas. Allez.
Oui, bien écoute, à la question qui est Stéphane Boyer, je te dirais...
Un gars de Laval?
Je suis un gars de Laval, je suis né, j'ai grandi à Laval.
Cité de la santé?
Cité de la santé.
OK. Super.
Moi, ma famille, mes grands-parents viennent de Saint-François, sur la rue Boyer.
Oui. Ça a l'air que votre grand-père était un des premiers citoyens sur sa rue, là, à Saint-François-Laval.
C'est ça, exactement. Donc, la rue est en l'honneur de mon grand-père. Mais j'ai grandi après ça à Vimont-Auteuil, toute mon adolescence. Et là, depuis plusieurs années, je vis dans Pont-Viau. Donc,
vous avez fréquenté Horizon Jeunesse, Odyssée des Jeunes.
Odyssée des Jeunes, OK.
Excellent, superbe. Et ce qui est intéressant dans le parcours du maire Boyer, c'est que vous avez quand même une aisance au niveau académique, mais vous avez ce côté aventurier également. Car selon les recherches de Coconut Podcast, en secondaire 4, vous allez décider de quitter l'Amérique du Nord pour vous rendre, alors là, assez loin, en Océanie, en Nouvelle-Zélande. Pouvez-vous nous expliquer quelle mouche tsetse vous avez piquée à l'époque afin que vous décidiez d'aller poursuivre vos études secondaire 4, en Nouvelle-Zélande. Puis à partir de là, ça a l'air qu'on a voulu vous initier au hockey sur gazon, au rugby. Parlez-nous donc un peu de cette expérience magnifique.
Tu parles de mouche, tu sais. Moi, j'ai envie de te parler de papillon, de l'effet papillon. Des fois, il y a des petites choses qui arrivent dans notre vie puis qui ont un impact insoupçonné puis qui vient tout changer. Moi, quand j'étais en secondaire 3, j'étais à l'école et j'ai vu un poster sur le mur de l'école où on invitait les jeunes à appliquer pour un programme d'échange à l'étranger, programme d'échange étudiant. Puis là, il offrait différentes destinations. Puis à la blague, j'ai dit « Ah, je pense que je vais aller faire mon secondaire 4 à l'étranger », mais pour moi, c'était farfelu, c'était inaccessible, je pensais pas que ça pourrait m'arriver. Mais j'ai un ami qui m'a dit de manière très sérieuse « Hey, si tu le fais, va en Nouvelle-Zélande, c'est super beau », puis c'est là qu'ils ont fait le Seigneur des Anneaux. Mais il l'a dit avec tellement d'aplomb, de manière tellement sérieuse, comme c'était plausible, que moi, je me suis dit, ben, si lui, il trouve pas ça fou, pourquoi pas? Et donc, ce soir-là, j'ai fait mes petites recherches. J'ai décidé d'appliquer sur le programme. J'ai travaillé tout l'été pour lever de l'argent, pour pouvoir me payer le billet d'avion. Et je suis parti un an, j'ai vécu dans une famille d'accueil. Et ça a changé ma vie parce que je suis revenu confiant en moi, je m'étais ouvert sur le monde, j'avais appris une nouvelle langue.
Oui, la langue de Shakespeare, exact.
Exactement, puis ça a été le début pour moi d'une longue série de voyages. Par la suite, j'ai terminé mon secondaire, j'étais allé en Afrique du Sud, faire du bénévolat pour les ambulances là-bas. Et par la suite, durant mes études, j'ai étudié au Mexique, au Guatemala, donc ça a fait de moi un
Vous avez fait des stages auprès de l'ONU également. Écoutez, toute une formation qui va vous préparer aux plus hautes fonctions au sein de la nation québécoise sur l'île Jésus en tant que maire. La réaction de vos parents lorsqu'ils vous voient devenir globe-trotter, est-ce qu'eux-mêmes, à un certain moment, se sont dit « bon, on n'a pas le choix de l'encourager ». Quelles ont été la réaction de maman et papa lorsque tu leur as dit « bon, je vais étudier en Nouvelle-Zélande, je m'en vais en Afrique du Sud, je pars en backpack pour le Mexique, je m'en vais à la Tierra del Fuego, tu sais, je ne sais pas, on vous écoute ».
Moi, la première fois, je pensais pas qu'elle allait me permettre de le faire. Okay. Mes parents ont jamais sorti du Québec. Mm-hmm. C'est pas des voyageurs. Mm-hmm. Ils parlent pas anglais. Mm-hmm. Donc, j'avais peur qu'ils me disent non. Mais finalement, leur réaction, c'était de dire « Wow! Hey, si seulement on avait eu cette chance-là quand on était jeune.
Okay. »
Et donc, ils m'ont toujours laissé aller. Mm-hmm. C'est peut-être la plus grande chance que j'ai eue dans ma vie, c'est d'avoir des parents qui m'ont laissé aller, qui m'ont fait confiance. Puis par la suite, mes pauvres parents, parce que j'ai vécu plein d'aventures dans plusieurs pays, puis des fois, je me rendais peut-être pas compte, je les appelais, je disais « Ah, maman, c'est génial, ici, c'est fou, il y a des clôtures barbelées, la police a des mitraillettes. » Puis moi, j'étais surtout fasciné par les milieux où j'allais, sans trop me rendre compte que pour mes parents qui étaient à l'autre bout du monde, qui regardaient un peu impuissant, mon Dieu, dans quoi il est rendu, mon enfant?
Mais ça vous préparait. Mais ça vous préparait. Parce qu'en faisant ces voyages, vous côtoyez énormément de diversité. Dans Vimont-Auteuil, dans les 30 dernières années, on a vu un brassage culturel. Ça vous préparait encore une fois à gérer une ville si multiculturelle, prônant l'interculturalisme que Laval, l'Afrique du Sud, l'Océanie, le Mexique. Ça, on trouve ça fort intéressant. Est-ce que vous-même, aujourd'hui, vous regardez ça et vous dites « Coudonc, Stéphane ». Ça t'a aidé, là, ces voyages-là?
Bien, c'est certain que ça m'a aidé, que ça m'a fait grandir comme individu. Superbe. Puis le commentaire ou le conseil que j'aimerais donner à tout le monde, c'est dans la vie, oser. Oser faire des grands pas, oser essayer des nouvelles choses, puis oser rajouter des cordes à votre arc. Moi, aujourd'hui, comme maire de Laval, c'est sûr que je dois me prononcer sur plein d'enjeux, sur le transport, l'environnement. Je suis en contact avec des gens qui viennent de plein de milieux différents. Puis ce qui m'aide beaucoup, c'est d'avoir vécu différentes choses dans ma vie. Je viens d'une famille d'entrepreneurs, j'ai
Papa
voyagé.
Papa est entrepreneur, oui.
J'ai travaillé dans le communautaire. Donc, aujourd'hui, je crois ce qui m'aide, c'est que quand quelqu'un vient me parler, en général, je comprends sa réalité. Puis,
oui,
à quelque part, j'ai vécu au moins une expérience dans ma vie qui me permet d'avoir un lien, puis de comprendre, d'être empathique à la situation de la personne.
C'est clair. Et Coconut Podcast, vous êtes impliqué dans la vie lavalloise depuis fort longtemps et on peut le certifier. Stéphane Boyer a une aisance. Il rentre dans les familles haïtiennes. Je pourrais vous dire qu'il a une carte USB qui lui souffle les mots en créole. Vite fait, t'es comme un poisson dans l'eau. On t'a déjà vu, là, à côté de famille haïtienne ne serait-ce, puis de famille libanaise, ton équipe est composée de gens venant des quatre coins du monde, à l'hôtel de ville. Cette aisance auprès de la diversité, on aimerait t'entendre. Est-ce que les citoyens, les citoyennes, comme on le fait aujourd'hui, viennent « Monsieur Boyer, vous êtes donc bien à l'aise avec tout le monde », puis on sent qu'on n'est pas mis de côté lorsqu'on est avec M. Boyer, puis si on vient de la diversité, votre réaction à ça?
Ben, encore une fois, je te dirais que c'est mes voyages qui m'ont permis d'avoir cette ouverture-là. À chaque fois que j'allais en voyage pour le travail ou pour l'école, je restais dans des familles locales. Donc, j'ai resté dans des familles au Guatemala, au Mexique, en Afrique du Sud, un petit peu partout où je suis passé.
Entonces, ¿hablas español, señor?
Pardon?
¿Hablas español poco?
Si, claro que si.
Claro que si!
Donc, d'avoir la chance de vivre chez quelqu'un d'autre, justement, ça t'ouvre les yeux sur d'autres réalités. Et je pense fondamentalement que la diversité culturelle, c'est une richesse. C'est peut-être cliché de le dire, mais c'est vrai. Le Québec, on a cette force-là d'avoir une diversité linguistique, culturelle. Puis même pour des entreprises, je vais faire un lien. Quand j'étais à Mexico, aux villes de 20 millions d'habitants,
des F.
C'est presque juste des Mexicains.
Oui, c'est vrai.
Puis c'est incroyable parce que c'est une immense ville. Tu vas dans un quartier chinois, puis c'est des Mexicains.
20 millions d'habitants, là. Hein?
Oui, oui. Donc, au Québec, on a cette chance-là. C'est intéressant, pour, je pense, pour les entreprises qui viennent ici d'avoir des employés, un bassin de main-d'œuvre polyglotte. Mais c'est important, c'est une richesse au niveau artistique, culturel, au niveau social. Puis on doit l'embrasser, cette diversité-là. Moi, je suis fier. Puis Laval, d'ailleurs, est rendu une des principales terres d'accueil de l'immigration au Québec. Puis je trouve que c'est vraiment une force pour nous.
Superbe. Écoutez, à Coconut Podcast, on reçoit Mme Claudie Monpoint, qui est à la ville de Laval au niveau de la diversité et de l'immigration. Donc, c'est même intéressant de voir qu'il y a des postes en ce sens au niveau de la ville de Laval. Même le directeur général de ville de Laval et où a été des communautés noires également. Vous pouvez préciser pour nous?
Absolument, d'origine haïtienne.
D'origine haïtienne. Donc, on sent qu'il y a un changement au niveau de ville de Laval. Avec l'administration Demers, ça a commencé. Et aujourd'hui, on sent que ça se confirme avec l'administration Boyer. Bon, maintenant, on peut dire qu'on a appris à connaître notre maire. Il y a deux éléments qu'on aimerait quand même aborder, parce que ça, ce sont des éléments phares de votre parcours. Vous, vous aimez le sport, mais vous aimez marcher, ça a de l'air. Ça a perdu popette. Vous êtes rendu jusqu'en Gaspésie, vous préciserez pour nous, afin de ramasser des fonds pour la cause de l'autisme. Ça, là, c'est toute une cause qui sent que les Québécois sont très sensibilisés à son égard.
Oui.
Qu'avez-vous retenu de cette expérience et êtes-vous conscient que cette expérience vous a mise sur la map, si on peut utiliser l'expression?
Oui, bien.
Vous avez fait connaître du grand public, les grands médias parlaient du citoyen Stéphane Boyer à l'époque, tu sais, qui épousait une cause puis qui a ramassé quoi, près de 6-7 000 $ pour cette cause. On vous écoute?
C'est ça, bien. Je voulais faire un voyage à une certaine époque, ça, j'avais envie de voyager à pied, de faire le chemin de Compostelle en Espagne. Puis en réfléchissant, j'avais beaucoup d'amis qui travaillaient auprès de familles qui ont des jeunes autistes. Puis ça me touchait beaucoup la réalité avec laquelle doivent composer ces familles-là. Puis je me suis dit, non, plutôt que de faire juste un voyage pour mon plaisir personnel, je veux faire un voyage qui ait un impact. Mm-hmm. Puis je vais faire... Plutôt que de faire le chemin de Compostelle en Espagne, je vais faire mon chemin de Compostelle ici au Québec.
C'est bon,
puis je vais le faire pour une bonne cause.
C'est cool.
Donc, je suis parti, j'ai pris un billet d'autobus, je suis parti à Percé et j'ai marché du Rocher Percé jusqu'au Mont-Royal sur plus de 1000 km à pied, seul avec mon pack-sac. Puis dans chaque ville où je passais, je m'arrêtais, j'allais cogner à la porte du journal local ou de la radio locale pour parler de l'autisme, de cette réalité-là et de lever des dons. Fait que j'ai pu lever 6-7 000 $, mais surtout sensibiliser les gens à la situation.
Okay.
Sur le plan personnel, je te dirais, c'est le plus beau voyage que j'ai fait de ma vie. Les gens pourraient penser
vous
que
en
c'est...
Fait pas mal.
J'en avais fait pas mal. Les gens pourraient penser que c'est plate, marcher, mais tu fais le vide total. Tu n'as pas d'obligation. Personne qui t'attend le soir. Tu n'as pas de devoir. Tu n'as rien à penser. Fait que le matin, quand tu es prête, tu te lèves. Quand tu veux marcher, tu marches. Quand tu veux prendre une pause, tu prends une pause. Quand tu es tanné le soir, tu montes ta tente sur le bord du chemin dans le bois. Puis c'est vraiment une expérience que je souhaite à tout le monde.
C'est
ça nous fait aussi réaliser à quel point Québec est grand. Les distances à pied, crois-moi que...
Majestueux.
Ah oui, c'est grand, c'est majestueux. Ce qui prend 15 minutes en voiture, relier deux villes, ça te prend une journée, 8 heures de marche à pied.
T'as vécu l'expérience de grand-papa, arrière-grand-papa Boyer de Saint-François. Là. Les grandes distances, on faisait ça en charrette. Puis, donc, intéressant. Stéphane Boyer, maintenant on rentre dans le plat principal. Écoutez, vous avez été récemment élu maire de Laval. Déjà beaucoup de réalisations sous l'administration de M. Demers. On aimerait que les citoyens, les citoyennes qui vous écoutent, là, pour les 4 prochaines années, qu'est-ce qui s'en vient pour Laval? On sait que déjà vous aviez donné le transport aux personnes âgées gratuitement. Ma maman, sachant que je venais vous interviewez, M. le maire. Elle dit, M. Joseph, Alain, est-ce que tu peux demander à M. le maire, est-ce que le transport va rester gratuit pour les personnes du troisième âge? Alors, la première question est celle de maman, Marie-Lydie.
Est-ce que, parce qu'on sait qu'au niveau du transport, vous demandez du financement auprès de Québec, d'Ottawa pour pouvoir assurer un service. On va avoir un nouveau garage à Laval pour la STL. Ça, ce sont de grandes nouvelles. Mais à un moment donné, il faut trouver les sous pour assurer les services. Ouais. Est-ce que les personnes du troisième âge vont préserver la gratuité du transport?
Maman Joseph, la réponse, c'est oui.
Ouais! Maman Joseph, mamie, Monsieur Stéphane Boyer vient de te confirmer. Tu n'as pas besoin de stresser. Tous tes amis de Saint-François, de Laval, le transport en commun va rester gratuit pour vous, mesdames, messieurs. Je l'ai dit avec mon accent haïtien, c'est bon. Ça, c'est super parce qu'ils étaient vraiment contents de cette annonce, surtout pour les gens de l'Est de Laval. Des fois, ils sont un peu enclavés. Oui. S'ils n'ont pas de voiture, il n'y a pas la même desserte que vers le centre de Laval nécessairement. Et cette nouvelle, vraiment, là, on vous le dit à l'administration de M. Demers, M. Boyer, aujourd'hui, ça, c'était un grand coup. En tout cas, chapeau pour ça, Coconut Podcast le réitère.
Ben, merci.
Vous, là, on vous donne quelques éléments par la suite, vous pourrez développer. Vous avez poussé également la 19, le gouvernement de la CAQ. Ça a l'air qu'il commence les travaux. Là. Il y a de quoi qui se prépare. Pour les citoyens de Laval, c'est un plus, un gros plus. Il y a du financement via le programme, le PQI, Programme québécois oui. d'infrastructure. Il y a beaucoup de fonds qui ont été débloqués. Entre autres, vous nous appreniez il y a 2-3 semaines que le centre aquatique, les travaux se poursuivaient. Oui. C'est dommage, c'est pas nécessairement prêt pour les Jeux du Québec, mais il y a de grands chantiers à Laval. On aimerait savoir qu'est-ce qui s'en vient pour nous au niveau des infrastructures sous l'administration de Demers-Boyer. Vous nous aviez fait participer à ces consultations sur un nouveau schéma d'aménagement. Même Mouvement Lavallois travaille sur des points très précis là-dessus. On aimerait vous entendre.
Oui, bien peut-être 4-5 grands projets qui s'en viennent. Oui. Complexe aquatique, yes. Donc un grand complexe va avoir 3 bassins de natation qui vont pouvoir accueillir jusqu'à 800 baigneurs à la fois. Donc ça, la construction est commencée. D'ici 2 ans, les gens vont pouvoir en profiter.
Compétition internationale également. Là.
Ça va être pour tout le monde. Autant les familles qui veulent aller divertir avec leurs enfants que pour les athlètes. Mm-hmm. Ensuite, un autre grand projet qui s'en vient, c'est un centre, une infrastructure culturelle. Donc on veut construire près de Montmorency une grande bibliothèque, mais qui va accueillir pas juste des livres, qui va accueillir le savoir en général, mais aussi une quinzaine d'organismes culturels qui vont pouvoir avoir leur bureau, mais qui vont pouvoir aussi faire de la création puis de la diffusion sur place. Donc,
okay. Ben là, Coconut Podcast, on va appliquer, là! Ben ça écoute, serait pas pire, ça.
Moi, je veux que Laval soit une ville artistique, une ville culturelle, parce que je trouve que c'est ça qui donne une âme à nos quartiers, c'est ça qui donne de la saveur à nos villes. Il faut qu'il y ait de la culture.
Durant votre campagne électorale, c'est ce qui a vraiment amené Coconut Podcast à se pencher sur Laval. Vous aviez fait cette sortie disant que les médias ne s'intéressaient pas nécessairement toujours à ce qui se faisait de magnifique à Laval. Vous aviez même fait un appel à certains médias de regarder Laval et on avait comme pu comprendre que vous travailliez sur un grand centre, Centre Trudel, entre autres, un centre sur le cinéma. Hein, ça, c'est comme quelque chose. Quand Coconut Podcast, on a fait nos recherches, on est tombé là-dessus. Marcel Villeneuve, l'Harmonie, c'est un projet qui peut amener quoi, 250 à 500 emplois à Laval, en tout cas dans l'Est, entre autres. Ça fait longtemps que dans l'Est, on n'a pas eu des projets d'envergure.
Oui, bien absolument. En fait,
ça, là, c'est big.
Il y a plusieurs étapes qui restent à franchir, dont un changement de zonage. Donc, il faut que la population accepte le changement de zonage.
Et vous voulez même déplacer le registre référendaire peut-être à Saint-François pour que les citoyens puissent s'exprimer donc, là, jusqu'au 23 août. Là, ils
c'est
ont,
ça.
Là.
Donc, s'il y a un vote, parce qu'il faut que les gens signifient vouloir un vote. Si c'est le cas, on pourra amener le registre auprès des gens. Mais il y a jusqu'à présent une belle réception du projet de la population. Les gens, les commentaires sont majoritairement très positifs. Et si le projet fonctionne, Saint-François va devenir une plaque tournante du cinéma au Québec, mais même de production internationale. Donc ça, c'est pas rien d'avoir... il va y avoir des vedettes hollywoodiennes qui vont peut-être un jour être à Saint-François.
Saint-François, ça a monté du moulin, là, ouais, tu sais. Ouais. Hey, incroyable, ça. Puis vous connaissez votre Saint-François, vous gérez Laval, mais on vous voit souvent. Monsieur Demers, on le voyait également. Ça, c'était... bien par rapport à d'autres administrations précédentes, qu'on ne les voyait pas nécessairement souvent dans l'Est, mais vous, on vous a vu avec M. Moras à l'époque, vous sillonnez les rues de Saint-François, ça c'est magnifique. Donc là, on a quand même deux projets au niveau du numérique, proche de Montmorency, dans l'Est de Laval. Deux autres projets, là, vous aviez parlé, vous voulez connecter l'Est et l'Ouest.
Oui, bien, ça m'amène sur un autre sujet, le transport en commun.
Yeah, yeah.
Moi, je veux développer des axes de transport en commun, surtout Est-Ouest, okay, parce que Laval a toujours été développé de manière à amener le transport vers Montréal puis en revenir. Donc, dans une dynamique où les gens travaillent, s'amusent à Montréal puis reviennent dormir à Laval. Mais c'est plus vrai, c'est plus ça la réalité à Laval. De plus en plus, les gens vivent, travaillent puis se divertissent à Laval. Donc, moi, je veux des liens Est-Ouest pour mieux connecter nos quartiers. Et entre autres, Saint-François, qui est enclavé. Donc, j'aimerais prolonger le boulevard Saint-Martin jusqu'à Saint-François pour pouvoir avoir une bonne desserte de transport en commun. Parce que là, présentement, le transport en commun dans l'est de l'île, ben sur les vagues, il reste pogné derrière les voitures, puis il se fait tous les stops un après l'autre, puis sinon, c'est l'autoroute. Donc...
on voit que la Démilille également, il y a eu pas mal de réfections des gardes-fous, ouais. Donc, ça, c'est intéressant quand même, parce qu'il y avait des affaissements.
Il y a de l'érosion,
exactement, mais vous avez quand même travaillé, on voit qu'il y a eu réfections à pas mal d'endroits sur la Démilille. Moi, beaucoup l'Est quand même, parce qu'on a été délaissé pendant longtemps, mais on sent que ça change. D'autres grands projets, là, il y a quelque chose?
Je vous dirais un autre grand projet sur la rivière des Mille-Îles. Il y a actuellement un petit refuge qui existe, le parc de la rivière des Mille-Îles, qui couvre environ 25-26 hectares. Mais moi, je veux l'agrandir vraiment davantage. Là, on a mis à disposition plus de 500 hectares de terrains municipaux qu'on a achetés dans les dernières années. Donc, des berges, des îles, des boisés près de la rivière.
L'île Saint-Pierre, l'île Vachon ont été protégées.
Exactement. Il y a deux des trois grandes îles qui ont été acquises par la ville. On est en discussion pour la troisième.
Okay.
Puis ça va nous permettre de faire un grand refuge qui va protéger la rivière des Mille-Îles. Un, protéger la biodiversité. La moitié de toutes les espèces animales du Québec sont présents dans la rivière des Mille-Îles, donc c'est incroyable, mais aussi pour donner accès à la population. On sait, les gens, ils veulent profiter de plus en plus de leur parc, hein, avec la pandémie, on sort dehors, on veut visiter nos espaces verts. Donc, moi, je veux y donner accès, avoir des sentiers, des toilettes, des bancs.
Superbe, ça.
Donc, on puisse en profiter de nos beaux milieux naturels.
Ça, c'est magnifique, magnifique. Écoutez, deux derniers sujets qu'il nous reste très rapidement. On sait que vous êtes attendus là, pour une autre rencontre. Monsieur le maire, vous, là, vous êtes le maire du vivre ensemble. Ça, c'est reconnu par beaucoup de gens. À Laval, on sent qu'il y a un problème qui était plus montréalais, qui se déplace sur l'île Jésus. La prolifération des armes à feu. On vous a vu faire des sorties récemment. On vous sentait un peu plus fâché là, quand même. Vous avez donné ordre au service de police. On a vu qu'il y a des enquêtes qui se sont faites, qui se sont résolues assez rapidement. Quel est le plan du conseil de ville, de votre équipe, de l'administration Boyer, afin d'assurer des rues paisibles? On sait que le pow-pow se fait même beaucoup dans l'Ouest, jadis quand même tranquille. Quelles mesures allez-vous mettre en place avec le service de police de Laval pour assurer aux citoyennes et citoyens de Laval de pouvoir vivre une vie comme on l'a toujours connue à Laval, paisible?
Oui. Absolument. Bien, c'est un gros enjeu qui est très important et qui me tient à cœur parce qu'on doit être capable d'offrir à nos citoyens une belle ville et des quartiers sécuritaires. Donc, ce qu'on fait, on agit sur deux fronts. L'intervention, donc quand il y a des crimes commis, on veut être sûr que la police ait tous les outils. Donc, on a injecté des sommes supplémentaires, entre autres au niveau des enquêtes, pour être sûr qu'il y a des suites, que les enquêtes donnent des résultats, puis qu'on puisse arrêter les gens qui ont été impliqués. Mais au-delà des enquêtes et l'intervention policière, on veut aussi beaucoup agir en prévention. On veut éviter que nos jeunes se rendent jusqu'à la gang de rue. Puis ça passe par leur donner...
réfection des aires de jeu. entre autres sous votre administration. Chapeau bas, monsieur le maire, parce qu'on a vu les changements réels. Je parle pour le parc du Moulin, on va parler pour ce que je connais. Mais là, il y a des sommes qui ont été investies. Le parc, aujourd'hui, un jeune qui rentre là, au niveau même ici, là, à Rosaire-Gautier, le skatepark, les terrains de tennis, accès aux berges. Mais au parc du Moulin, à une époque dans l'Est, on avait ces problématiques de jeunes, délinquance un peu. Mais si on offre des aires de jeu, des activités aux jeunes, un centre aquatique, par exemple... Oui. On évite, on fait de la prévention pour qu'il ne soit pas dans la rue.
Bien, c'est ça l'objectif. Mm-hmm. On veut qu'il puisse se divertir. On veut, tu sais, un sport, c'est pas juste une activité. Mm-hmm. Un sport, c'est d'appartenir à une équipe, c'est de développer un sentiment d'appartenance, c'est de développer sa confiance en soi, c'est de se donner des objectifs, de se dépasser. C'est ça qu'il faut donner à nos jeunes pour que nos jeunes aient espoir puis qu'ils se développent comme individus. Yes. Ça peut passer par le sport, mais ça peut passer par la musique. Ça, pour moi, ça peut passer par le voyage. Pour d'autres, ça peut passer pour d'autres types de passe-temps. Mais comme ville, on a le devoir d'offrir ces opportunités-là et d'avoir les infrastructures qui permettent de les offrir.
Et de travailler de concert avec les organismes communautaires.
Absolument.
Et ça, vous êtes reconnu d'être un gars très proche, permettez-moi l'expression, oui. Monsieur le maire, d'être un gars très proche des organismes communautaires en 10 secondes.
En 10 secondes, on travaille présentement avec une trentaine d'organismes communautaires. On s'est fixé des objectifs communs qu'on partage tous avec la ville et le centre de services et de santé de Laval.
Okay.
Et la ville, on a injecté 9 millions de dollars dans la démarche, mais aussi le gouvernement du Québec et des fondations privées. Donc ça nous permet d'agir en prévention avec nos partenaires qui sont les organismes.
Superbe. Écoutez, pour terminer, on en a parlé en début d'entrevue. Vous n'aviez pas pu voir vos commettantes, commettants pendant 2 ans. Vous qui êtes là depuis 2014, c'est bien ça? Vous organisez, et on termine là-dessus, un sommet, on pourrait dire national, sur le logement. Et le slogan, c'est « Amenez-nous de vos idées », là, je pense, quelque chose comme ça, parce que vous faites vraiment appel aux citoyennes, citoyens, afin de trouver une solution ensemble en ce qui a trait à la pénurie de logements, l'accès qui se restreint pour les logements, surtout à Laval. On aimerait vous entendre et vous parler qu'il va falloir penser à la densification, car vous êtes ces maires, vous êtes de cette lignée de maires qui est très sensible à l'environnement. Alors, la dernière question, que comptez-vous faire en ce qui a trait au logement abordable à Laval? Oui. Et par la suite, pourquoi opter davantage vers une densification pour les citoyens qui n'ont pas suivi ce dossier au lieu d'un étalement? Et on terminera là-dessus.
Bien, rapidement, en fait, le sommet, l'objectif, c'est de trouver des solutions.
26 août, là, ça, c'est ça?
26 août, toutes les grandes villes du Québec vont être présentes. On attend 300 personnes. Des gens qui construisent des habitations, les organismes communautaires, les paliers de gouvernement provinciaux, fédéraux. L'objectif, c'est de trouver des solutions. Puis c'est d'être innovant, c'est de sortir de la boîte, puis c'est d'essayer des choses. Donc, on va vouloir atterrir sur des projets concrets là, qui se fait pas au Québec puis qu'on veut tester. Parce que c'est rendu avec le prix de l'augmentation des loyers des hypothèques, c'est rendu très inabordable, très inaccessible pour un jeune qui veut acheter une première propriété ou même pour payer le loyer. Et ça touche tout le monde maintenant.
Donc, si c'est par un gros terrain, ça se fait dans l'Ouest canadien, vous êtes en train de regarder comment, au niveau de la réglementation, celle-ci pourrait être ajustée afin de permettre des unités, agrandir la maison, par exemple, afin qu'il y ait de l'intergénérationnel?
Bien, en effet, on a des idées, il y en a plusieurs. Et on va pouvoir les présenter le 26 août.
Nice, okay.
Mais le but, c'est de trouver des solutions pour que les gens puissent se loger à bon prix. Et sur la densité, puisque vous m'avez posé la question, avant, quand la population grandit tout le temps. Et autrefois, ce qu'on faisait, on rasait des forêts ou on dézonait des terres agricoles pour accueillir des nouveaux quartiers. Donc ça, on ne veut plus faire ça. Donc, on tente de redévelopper les villes autrement, de manière plus intelligente. Puis la façon qu'on veut y arriver, c'est en faisant la densification, mais la densification intelligente. Donc, par exemple, des centres d'achat avec des immenses stationnements. Est-ce qu'on peut faire des stationnements souterrains puis construire par-dessus de l'habitation? Et ça va être bon pour
combattre
tout le monde.
Combattre les îlots de chaleur, là, entre autres.
Ça va nous permettre de préserver les terres agricoles puis les milieux naturels restants.
Humides, entre autres.
Exactement.
Oui.
Ça va nous permettre de développer plus de transports communs. Donc, plus de personnes qui vivent sur une rue ou dans un quartier permet d'avoir des autobus qui passent plus souvent. Puis ça permet aussi d'avoir des quartiers, des commerces de proximité. Les gens nous disent, là, moi, je veux un café, je veux un restaurant c'est proche de chez moi, je veux une pharmacie que je peux marcher à pied. On peut pas faire ça dans un quartier de maison unifamiliale, mais si c'est un peu plus dense, ben, tu as la clientèle suffisante pour avoir un boulanger qui viendrait s'installer.
Super. Monsieur le maire, en terminant, des attractions touristiques à ne pas manquer dans la magnifique région de Laval. Je sais qu'il y en a pas mal là, d'activités, mais on sait que vous êtes un gars de plein air. On est l'été, peut-être quelques sentiers que vous nous amenez à Rosaire-Gautier. On passait sur la boulevard Lévesque, mais on ne savait pas qu'il y avait ce magnifique parc. Quelques petits secrets bien gardés là, que vous pourriez partager avec nous.
Écoutez,
des activités, Centropolis, un bon café, vieux Sainte-Rose, Saint-Vincent-de-Paul. Allez-y.
Laval est plein de trésors cachés. Je vous invite à découvrir nos quartiers, nos berges, nos parcs. Surtout, je pense, c'est l'été, il fait chaud, la rivière des Mille-Îles. On peut aller faire un tour de kayak, de canot. À cette heure, on peut même louer là, des barbecues flottants. C'est comme un gros beng dont tu peux être là en ami ou avec ta famille. Sinon, on a des beaux sentiers au bois de l'Équerre. On a plus d'une douzaine de boisés. Donc, peut-être aller voir le site de Canopée.
Okay.
Canopée, c'est un organisme communautaire qu'on finance puis qui entretient nos boisés puis qui les met en valeur. Donc, je dirais que c'est des bonnes
idées. Une bonne tablée. On sait qu'à Laval, on a pas mal de bons restaurants. Le Centropolis, là, c'est rendu super tendance. Les gens quittent le plateau Mont-Royal pour venir passer une petite soirée au Centropolis, peut-être une ou ailleurs, un petit café, un restaurant que vous aimeriez faire connaître au grand public rapidement?
Bien, il y en a plein qui me viennent en tête. Mm-hmm. Pas juste au Centropolis, il y en a à Sainte-Dorothée, il y en a à Saint-Vincent-de-Paul, il y en a à Sainte-Rose, un petit peu partout. J'ai surtout envie de vous dire, sortez dans nos restaurants. Nos restaurateurs ont eu la vie dure. Allez les encourager. Allez profiter des terrasses. Peu importe lequel, ils ont besoin de vous. C'est important de pouvoir les garder en vie, nos restaurateurs, parce qu'ils permettent d'avoir une belle qualité de vie dans notre ville.
Superbe. Monsieur le maire, les 15 dernières secondes sont à vous. Vous vous adressez à la caméra ici. Vos commettantes et commettants, écoutez, regardent le travail que vous faites. On sent que la ville est en train de changer. Vous pouvez les remercier. Vos remerciements à la caméra, monsieur le maire.
Merci à tous les citoyens Lavalois, Lavaloise. J'ai envie de vous dire que c'est ensemble qu'on va pouvoir construire une belle ville. Laval a plein de potentiel. C'est une ville qui est jeune, c'est une ville qui se développe rapidement. C'est une ville qui a les moyens de ses ambitions, puis surtout qui ont des citoyens qui sont passionnés puis qui ont à cœur leur quartier, leur ville. Donc je pense que si on travaille ensemble, on va arriver à créer vraiment un beau petit bijou qui va être envié partout à travers la province.
Wow! Écoutez, monsieur le maire, votre discours ou le discours de Mme Bintou Touré est en adéquation avec le vôtre parce qu'on a fait une entrevue avec Bintou qui sort ce samedi là, dans pas long. Puis Bintou, ce qu'elle dit, c'est qu'elle souhaite voir Laval, première ville au Québec dans une vingtaine d'années. Ce que vous venez de dire, c'est vraiment dans ce sens. Ouais, vous croyez en votre ville, on y croit, puis c'est important de voir que le premier magistrat de la ville croit en sa ville. Écoutez, monsieur le maire, on vous remercie énormément d'avoir été avec nous. Toute une entrevue. On vous sent reposé, vraiment d'attaque. Prenez des petites vacances pour vous, vous les avez faites. Vous aimez naviguer, ça a de l'air. Alors, comme à l'accoutumée, Coconut Podcast, on s'est promené à travers le Québec. Et là, on est dans la région métropolitaine de Montréal. Et on a été à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations. Puis, en langue autochtone, dans la région de Montréal, on nous dit « Niawen ». Merci.
Merci.
Et ce n'est que partie remise, monsieur le maire.
Bon été.
Je vous en prie, à vous aussi. Messieurs, dames, écoutez, on l'a connu comme conseiller de Duvernay-Ponviau. Il est devenu vice-président du comité exécutif à la ville de Laval, maire suppléant, et aujourd'hui, il est maire de Laval. Il y a quelque chose dans ma petite oreille qui me dit que dans une vingtaine d'années, il sera sur un ticket Boyer-Fournier-Fournier-Boyer pour gouverner le Québec. Premier ministre, vice-première ministre, vice-première ministre, premier ministre. Oui, je le vois dans ses fonctions. Sur ce, messieurs, dames, je vous invite à suivre le maire Boyer sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Il fait un travail incroyable avec son équipe, fortement diversifiée. 50% de l'équipe vient de la diversité. vraiment, Laval est en train de changer pour le mieux. Alors, on se voit pour une prochaine entrevue dans le cadre de Coconut Podcast sur la route. Sur ce, Niawin, merci, au revoir.
Ciao, ciao.